Donc, pour entrer maintenant dans le vif du sujet, donc, et puis évoquer les diverses facettes du véritable hold-up sur l'alimentation auquel nous assistons, et puis aussi, avant de vous laisser largement l'occasion d'intervenir tout à l'heure, donc, et de poser des questions aux diverses personnes qui vont intervenir, j'ai donc le plaisir de passer la parole à Henk Obling, qui est donc, comme disait Julie Duchâtel, qui est donc le directeur et le cofondateur de Grain. C'est lui aussi qui avait été réceptionné donc pour le compte de Grain, le Right Livelihood Award, qui est qualifié de prix Nobel alternatif, qui a été attribué à Grain en décembre 2011, notamment, entre autres, pour son implacable dénonciation des effets pervers générés par l'accaparement des terres dans le monde entier. Donc, Henk Obling, j'ai le plaisir de vous passer la parole.
Thank you very much. And also thank you very much to all the organizers of this meeting for having us here. When we started talking with Julie from CETIM about half a year ago about the possibilities to translate our book, The Great Food Robbery, into English, she immediately started talking about the possibility to organize here a book launch in Geneva, and we reacted very enthusiastically because we were very happy that we would have the opportunity here in Geneva to talk about these issues.
Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de nous accueillir ici et d'avoir organisé cet événement. Quand nous avons discuté avec Julie du CETIM il y a un an et demi à propos de la possibilité de traduire cet ouvrage en français, nous avons évoqué la possibilité d'avoir ce lancement officiel de la version française ici à Genève, et nous étions très heureux de pouvoir le faire.
I still feel a bit lonely without my colleague Jeanne here on the site. I'm told she will be arriving rather soon. She's in a radio program at the moment. Without much delay, I would like to enter a little bit in a discussion and the reasoning also why we published this book and why we called it The Great Food Robbery.
Je me sens toujours un peu seule sans Jeanne, ma collègue, mais bon, elle va être bientôt avec nous. Elle est actuellement dans un programme radio. Donc, sans plus attendre, je vais directement rentrer dans le vif du sujet, ainsi que dans le raisonnement et pourquoi nous avons choisi d'appeler ce livre « Hold Up sur l'alimentation ».
In our work, in Grain, we work with many different partners across the world, in Africa, in Latin America, in Asia, and very often in a discussion. My organization, Grain, focuses a lot on food systems, on how we can produce enough food in a way that everybody has enough to eat. Again and again, in debates around the world, we hear that our defense for small farmers, for local knowledge, for local biodiversity and local farming systems is something somewhat outmoded, and that actually you should be looking at how we can modernize agriculture and how modern agriculture, industrial agriculture, is much more effective, efficient, and a better way to produce food.
Donc, l'organisation Grain travaille avec de nombreux partenaires dans le monde entier, en Asie, en Amérique latine, en Afrique notamment. Ils se sont toujours concentrés sur les systèmes de production alimentaire et comment produire suffisamment de nourriture pour nourrir tout le monde. On a souvent entendu un débat qui disait que les petits producteurs ainsi que les systèmes locaux de production, les connaissances locales traditionnelles n'étaient pas suffisantes pour produire pour tout le monde et qu'il fallait moderniser tout cela et que finalement il n'y avait que les systèmes de production industrielle qui étaient capables de produire pour tous.
In our experience, also with working in partners across the world and from the research we have been doing, it is becoming increasingly clear that the industrial food system, which includes industrial farming, big plantation farming, but also the whole food system based on import, export, on producing food somewhere far away to be imported in another place close by and vice versa, is not the most efficient way of producing food for the world. We have turned around that argument in our work. again around the world, we see very often that at the local level, small farming communities working in very tiny plots, but working in collaboration as a collective together, form a much more formidable and effective and equitative food system than what many doers want to believe that the industrial system does.
Grâce à notre expérience, à différentes études menées avec nos partenaires, à nos recherches, il est devenu de plus en plus clair que les systèmes industriels de production alimentaire, les plantations, les grandes plantations, le système d'import-export, le fait que la nourriture fasse peut-être parfois plusieurs fois le tour de la terre entre le point de production, de transformation, de consommation, n'était pas le moyen le plus efficace. Donc on a complètement inversé l'argument et on s'est aperçu qu'en fait la production locale à petite échelle sur des petites parcelles mais de manière collective en travaillant tous ensemble était beaucoup plus efficace, beaucoup plus équitable et était en fait beaucoup plus viable.
I would like to explain this and I don't want to take too much time.
Mais juste avant, j'aimerais juste avoir le plaisir de dire que voilà qu'on a le plaisir d'accueillir Jeanne Sunji Ekpong, qui nous a rejoint, qui était donc dans l'émission en direct tout à l'heure, dans l'émission Forum de la Radio Suisse Romande. Et nous lui souhaitons la bienvenue. Elle interviendra donc après, tout à l'heure, après Enko Bling. Bienvenue.
I would like to illustrate what I was saying with a number of examples, areas which we have been working in, and that will also probably make clear why we called our book The Great Food Robbery. The first issue I would like to focus attention on is the issue of land, the importance of land, and also how, especially in the last 5 years or so, there has been a tremendous strong and new trend where land is being transferred from local communities to international, multinational corporations.
Donc je vais vous expliquer et illustrer, vous donner des exemples de nos domaines de travail pardon, et de ce livre. Le premier se concentrera sur l'aspect de la terre en elle-même, son importance, l'importance de la terre et une nouvelle tendance qui est apparue très clairement, surtout au cours des 5 dernières années, qui consiste à transférer la propriété de la terre et des locaux aux internationaux, aux entreprises multinationales, transnationales.
In the last 5 years only, about anything between 50 and 80 million hectares of fertile farmland has passed from control and property of local communities, of farmers, into mostly the hands of either the financial industry, investment houses, agrochemical corporations, and then sometimes also investment companies from different countries who were worried that they would not be able to secure their own food security. In 2008, when we noted this trend, there were two things happening. On the one hand, we were in the middle of a food crisis, where food prices went up sharply, and well, as a result, sometimes countries stopped exporting food. We had the reaction of Vietnam, for example, stopping exporting rice and many other examples. And there were indeed a number of countries which had a lot of money, but we didn't have any access to food, who suddenly were getting very nervous. The recipe of the IMF and the World Bank that don't worry about producing your food, you can import your food, suddenly wasn't working anymore. These countries, and they include many of the countries in the Gulf states, but also countries like China and others were affected, started looking for places where they could secure access to food. And in many cases, they found them in Africa.
Donc depuis 5 ans, on a remarqué qu'entre 50 et 80 millions d'hectares de terres arables tout à fait fertiles ont été transférés d'une propriété locale à une propriété industrielle, internationale également. Donc c'est aussi bien des instituts financiers, des instituts d'investissement, des entreprises agrochimiques. des entreprises d'investissement de et également différents pays qui sont inquiets, qui étaient inquiets de leur propre sécurité alimentaire. En 2008, on a vu deux choses. D'abord, la crise alimentaire avec l'augmentation très importante des prix des aliments de base. Et certains pays, en réaction, ont stoppé leurs exportations, comme le Vietnam a mis fin à ses exportations de riz. Et on a vu que de très nombreux pays étaient de plus en plus nerveux. Le message traditionnel de la Banque mondiale et du FMI, qui consistait à dire qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que même si on ne pouvait pas produire suffisamment en interne, on pourrait toujours importer, ne marchait plus. Donc les pays du Golfe, la Chine et d'autres pays ont commencé à chercher des endroits dans le monde où produire suffisamment pour leur propre sécurité alimentaire, et ils se sont alors tournés vers l'Afrique.
The second factor in the same time was that we were in a financial crisis. You will remember in 2007-2008, entire bank complexes collapsing in the United States and with a ripple effect to many parts of the world and also here in Europe. At that point, investment houses, the investment in the investment companies, who were not short of money, who had a lot of money to put elsewhere, found decided that farmland was a safe commodity to invest in. This has not really happened before. For them, farmland was before was too difficult, too complicated, depending on the weather, depending on farmers, etc. But with the perspective of the food crisis, where it was clear that food prices would remain high and in the future even go higher, with the perspective also of climate change, where fertile farmland is increasingly under stress and will therefore be increasingly scarce, they massively, as of that date, started investing, buying up farmland across the world. This happened especially in Africa again, but also in Latin America, in Asia, and in Eastern Europe as well. So those two factors, the food crisis and the financial crisis, merged together in the trend that we are now witnessing, where this 50 to 80 million, and some observers actually say more, amount of farmland is being moved from poor farmers to rich investors. Just by way of illustration, this amounts to roughly half of all the farmland of the European Union, changing hands in just half a decade's time.
Le deuxième facteur, c'est bien sûr la crise financière qui a affecté également le monde en 2007-2008. Ça a commencé par la banqueroute des banques, du système bancaire aux États-Unis, qui a fait boule de neige, qui a affecté le monde entier, l'Europe. Donc les entreprises, les centres d'investissement, les fonds d'investissement qui avaient, eux, beaucoup d'argent, ont décidé d'investir dans les terres agraires, les terres agricoles, qui étaient l'actif, qui est devenu l'actif le plus sûr. Avant, on considérait que c'était compliqué, qu'il y avait toujours des paramètres de météo, etc. Donc c'était compliqué. À ce moment-là, c'est devenu un actif sûr. Ils savaient que les prix des aliments allaient rester hauts, voire continuer de monter, que compte tenu de la crise climatique, c'est un élément qui serait également de plus en plus soumis à un stress, à une demande forte, et qu'il y aurait de moins en moins de terres disponibles. Donc ils ont fait des investissements massifs dans ces terres, en Afrique bien sûr, en Amérique latine aussi, en Asie et en Europe de l'Est. Et ces deux facteurs combinés ensemble, donc la crise financière et la crise alimentaire, a donné naissance à ce phénomène de l'accaparement des terres qui affecte bien sûr donc les paysans, les fermiers les plus pauvres qui se voient dépossédés de leurs terres. Et donc depuis 5 ans, on considère que à peu près la moitié des terres, l'équivalent de la moitié des terres de l'Union européenne est passé d'une propriété des petits fermiers pauvres aux riches investisseurs.
The impact, the implications of this are tremendous. Jan will later on explain a bit with more examples of what it actually means in Africa. But the most immediate impact of all the land grabs which we have seen when the investors move in and when the bulldozers move in many cases, is the immediate removal of local communities from their territories, where very often they have been working for generations, losing their livelihoods. But it also has tremendous environmental implications. Very often they move into very fragile lands, and in all cases, and I think it's important to stress, they are also after the water. The world's land grabbing is also world water grabbing. If you take the map of Africa again. You look at Africa's big rivers, the Nile, the Niger, and all the other different rivers, and you put a map on top of it of where the big areas of new landowners are located, it's all around those rivers. Again, I won't go much into detail. Perhaps later in the discussion we can elaborate a bit more. But we did one report last summer at Grain, and we looked at just the Nile. And our conclusion is, with data from FAO and other sources, that of all the land which has been signed away by the countries in the Nile Basin, they have signed away twice as much land as there is water in the Nile. All these new lands are going to be irrigated with water of the Nile, and the situation is totally unsustainable. If this is allowed to happen, we'll end up with the Nile drying up.
This is what they plan to do, or this is what they've done already?
This is what they already have signed out, okay. Sent away, yeah.
Les impacts, les conséquences, les effets de ce phénomène sont bien sûr énormes. Jeanne pourra vous donner bien d'autres exemples d'Afrique, mais quelques exemples immédiats. Les conséquences immédiates de ce phénomène, bien sûr, c'est l'expulsion des communautés locales qui sont sur ces terres en général depuis plusieurs générations. Il y a des conséquences également environnementales, puisque si les terres sont exploitées, elles sont moins fertiles. Et un autre phénomène, c'est que l'accaparement des terres concerne également la ressource en eau, puisque si vous prenez une carte de l'Afrique, les principaux fleuves d'Afrique, le Nil, le Niger et les autres principaux fleuves d'Afrique, si vous superposez la carte des terres qui ont été accaparées en Afrique, vous verrez qu'elles coïncident parfaitement avec les terres qui sont irrigués et qui jouissent de ces fleuves. Grain a publié un autre rapport en été 2011 avec des données de la FAO et d'autres sources. Il y avait notamment mention d'un projet qui a été signé, qui a été approuvé concernant le bassin du Nil. Et ces terres, les terres qui ont été données à travers ce projet représentent deux fois plus qu'il n'y en a dans le Nil, donc c'est absolument pas durable comme situation, et c'est pas viable ni à court ni à long terme.
The grabbing of land and water is not the only thing that is happening in the context of the promotion of industrial agriculture. Local markets are also being destroyed. We already have had a lot of discussions in the past about how the subsidized exports from Europe to many parts of the world, and especially through the penetration of poor markets, is affecting the possibilities of the communities there to feed themselves. But we see increasingly also now a very active approach by many of the bigger food corporations to grab, to turn local markets into something which they can control and make operational at the international level. One example, and again I don't want to go much into detail, is which is also an example is elaborated in the book, is the case of the dairy industry, milk, in India. Today in India, 80% of all the milk produced comes from small farmers, and is being traded, is being commercialized, is being sold at the local markets close by. There's a whole sophisticated system of where the farmers sell to people on bicycles who bring it to the towns and to the cities, and there's a whole system where that milk actually arrives to the people who need it. We see now increasingly, in the case of India, where large corporations, including Nestle, are setting up trading systems where they want to, through contract farming, buy this milk, either directly from the smaller farmers, but also by creating and stimulating the creation of much bigger operations. And they're clearly after eliminating these local markets, which function well, into the bigger kind of markets which they control, and again, which largely will be for export. So it's not only about land grabbing, water grabbing, this is also about market grabbing. It's about, when we talk about the importance of free markets, of open markets, etc., very often it implies the destruction of local markets. In the case for food, it means that people can't eat.
En plus de s'accaparer des terres et de l'eau, il s'agit de s'accaparer les marchés locaux et de les détruire. Par exemple, bon, ça, on en a beaucoup parlé déjà avec les exportations qui sont subventionnées, les exportations notamment qui viennent d'Europe vers les pays pauvres, qui sont subventionnées et qui affectent la capacité des communautés locales à se nourrir. En plus de cela, il y a des très grosses entreprises qui veulent donc s'accaparer les marchés locaux pour les contrôler. Un exemple, le marché du lait en Inde. 80% du lait produit en Inde est produit par des petits producteurs qui le distribuent à leur tour directement sur les marchés locaux, donc dans les villes, dans les villages, en allant le distribuer à vélo, etc. Et il y a des entreprises, des grosses entreprises du secteur du lait, comme par exemple Nestlé, qui ont créé des systèmes de commerce pour acheter le lait directement aux petits producteurs ou soit à travers des réseaux plus élaborés. Et ce qu'ils veulent à terme, c'est pouvoir éliminer ces marchés locaux pour en prendre le contrôle et pour exporter le lait qu'ils arriveraient donc à contrôler. Donc non seulement ils veulent s'accaparer des marchés, mais les détruire ces marchés locaux.
Yet another market, yet another part of agriculture these large corporations are after is the seeds market. In the last 20 years, the global market for the production and the improvement of seed varieties have been to a large extent being totally transformed, and from being largely in public hands, in the hands of public agriculture programs or the hands of small companies who are developing new seed varieties, they have passed into the hands of large corporations, many of whose have also as their main interest the production of agrochemicals. It's a bit embarrassing for me to, as Julie was referring to the book which we published 20 years ago with CITIM, that we still have to talk about GMOs and explain about GMOs and explain about why we think GMOs is not going to feed the world. The transgenic crops are not a solution, are nothing contributing nothing to help to feed the hungry. Again, I won't go into detail about this, but for us it's clear that the control over the seed, the very cornerstone, the very starting point of any agricultural process, has been to a large extent already coming under control of the corporate sector, and as a result we are now debating whether or not we should be accepting GMOs and whether we should actually see that as the solution to the world food crisis. Again, I won't go too much in detail. Later, perhaps we can talk and discuss a bit more about it. But we see clearly that the removal of the control of this over the seed, agricultural biodiversity, the thousands and thousands of different varieties which local farmers have, are not only using, but have over generations created themselves, is being risked to be thrown away, to be removed from agriculture in favor of a handful of genetically uniform varieties and indeed GMOs, which we think leads us away from the question of food security, leads us away from solving the problems we are facing.
Et le dernier aspect de ce phénomène, c'est le contrôle des graines, des céréales. Depuis 20 ans, on s'est aperçu de ce phénomène de certaines entreprises qui souhaitent non seulement produire, mais améliorer les céréales. Donc avant, c'était les gouvernements, les autorités locales, les autorités publiques qui s'attelaient à ces politiques de l'agriculture. Ou les petites entreprises, les petites PME. Maintenant, c'est des grandes entreprises, notamment très souvent des entreprises qui produisent des agrochimiques. Et Henke disait que c'était très ennuyeux pour lui de devoir répéter ce débat. Effectivement, comme Julie l'a mentionné, il y a 20 ans, il a déjà publié un livre sur la question des OGM. Il ne veut pas de nouveau avoir à expliquer pourquoi les OGM ne sont pas la solution, ne contribuent en rien à l'amélioration de la nourriture dans le monde, ne nourrit pas les gens. Et finalement, le contrôle des céréales, qui est le point de départ de toute production alimentaire, serait vraiment dramatique pour eux. C'est très clair que s'il y a un contrôle sur les graines, il n'y a plus de biodiversité, plus de diversité biologique, pardon. Et ce serait mettre fin à ce que des petits producteurs ont utilisé et même créé eux-mêmes durant des générations. Ils ont eux-mêmes créé des graines pour arriver vers des variétés uniformes qui ne garantissent en rien la sécurité alimentaire.
So to wrap up our conclusion, the conclusion of this book, by going through sector after sector, by looking at the different aspects of the international food system, the conclusion for us is, and in grain we have been working towards that goal since quite long, is that we have to promote, on the first hand, an agriculture which is based on the knowledge and is based on the capacities of local farmers, which is based on local knowledge, which is ecological in nature, which is not based on a handful of uniform varieties and a lot of chemicals to sustain them, but is based on the diversity which local cultures have developed for millennia, and is also based on the use of local markets and the promotion of the use of food production at local level. Those are the people who today produce still the majority of the food in the world. It's a system which is under threat. And it's also, we think, the discussion about, which we hear so often, how we need to modernize this and how we need to supplant this with an industrial food system, which supposedly is more efficient. It is, I think, a challenge we all have if we are serious about trying to solve the world food problem, also trying to solve the world climate crisis. There's a direct link between industrial agriculture and the climate crisis. And in that sense, for us, the reason to pull these data together and to publish this book is to put a clear attention where the problem lies, which we think is with the industrial food system, and where the solutions lie, which we think is with local agriculture, ecological agriculture, under control of local farming communities. Thank you very much.
Grâce à ce livre, et ce sera les mêmes conclusions que le livre donc, examine les différents secteurs. C'est ce sur quoi Grain, encore une fois, travaille depuis le début. Donc, ils veulent promouvoir une agriculture qui se base sur les connaissances locales, les traditions locales, les petits fermiers locaux, sur une production agricole écologique qui n'implique aucun produit chimique, qui ne soit pas uniforme, mais au contraire qui promeuve la diversité, les marchés locaux, la production locale. Parce que ce sont les producteurs locaux qui produisent encore une fois la majorité de la nourriture qu'on consomme dans le monde. Et il faut être conscient également des menaces qui pèsent sur ce système, puisque encore une fois, la promesse de la modernisation ne fonctionne pas, ce sera moins efficace. Et il faut être conscient des défis, notamment des défis pour mettre fin à la crise alimentaire et à la crise climatique, puisque les deux sont directement liés. Et encore une fois, le livre permet de mettre en lumière les problèmes, les solutions qui passent par une agriculture locale, une agroécologie.
Merci beaucoup, Enkobling. Donc, il aura l'occasion tout à l'heure d'approfondir encore l'un ou l'autre des thèmes qu'il a abordés au gré de vos questions.